7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr. Aujourd'hui, nous nous intéressons au sort d'une femme au Pakistan. Car il y a dans le destin et le malheur d'Asia Bibi toute la maltraitance faite aux femmes les plus défavorisées dans une société parfois au bord de l'implosion. Asia Bibi, c'est cette paysanne pakistanaise, chrétienne, incarcérée depuis 2009, première femme à être condamnée à mort pour blasphème. Bonjour Anne-Isabelle Tollé.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez passé près de 4 ans au Pakistan comme journaliste correspondante pour France 24 et vous avez raconté l'histoire et le suspense qui plane encore, hélas, sur le sort d'Asia Bibi dans un livre pour mobiliser l'opinion. La mort n'est pas une solution. Je dois dire que c'est un titre assez inattendu. On a l'impression que vous vous adressez à la justice pakistanaise, non ?
Alors, pas seulement. Je m'adresse en effet à la justice pakistanaise dans la mesure où s'ils pendent Asia Bibi, comme la justice l'a décrété par deux fois, eh bien, ça résoudra pas le problème de cette loi du blasphème qui condamne injustement, dans leur grande majorité, les pauvres Pakistanais qui sont victimes d'une loi inique et littéralement instrumentalisée par tout le monde. Mais parce que j'ai écrit ce livre pendant les attentats de Paris, je m'adresse aussi à tous les fanatiques religieux en disant, ce n'est pas en commettant un attentat à Charlie Hebdo, au Bardo, au Super Cacher, que vous allez gagner d'abord et résoudre tous les problèmes. Donc d'une façon générale, la mort n'est pas une solution. Et en effet, sur la couverture, je reprends le sigle de l'islam, mais sur fond noir, blanc et noir, qui rappelle le drapeau de l'État islamique.
Alors, votre livre a été traduit en plusieurs langues.
Alors, pas celui-là encore, mais en effet, j'espère que oui, oui. Oui, et le premier livre est sorti dans plus de 13 pays, et ça a permis qu'Asia Bibi ait une notoriété mondiale. Et c'est pourquoi, ici ou là, à travers le monde, beaucoup de gens se mobilisent pour Asia Bibi.
Asia Bibi condamnée à la pendaison pour blasphème. Anne-Isabelle Tollé, les histoires dramatiques de femmes au Pakistan ne manquent pas, hein, les assassinats ou crimes d'honneur. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de singulier vraiment dans le cas d'Asia Bibi, au point que la mobilisation soit devenue internationale, au point que le pape intervienne, mais sans succès pour le moment?
Ce qui est singulier, c'est que la montée du fondamentalisme religieux est croissante au Pakistan, comme un peu à travers le monde. Et à travers cette loi du blasphème, les radicaux pakistanais, donc soit les partis religieux radicaux influents et proches des talibans, ou les fanatiques, les extrémistes religieux, veulent imposer au Pakistan un islam, une charia, un retour à la charia des talibans qu'on a pu connaître au Pakistan. Et à travers le cas emblématique d'Asia Bibi, en effet, ils défendent cet islam, leur vision de l'islam, parce qu'ils partent du principe que si Asia Bibi s'en sort, si elle est libérée, même si tout le monde sait qu'elle est innocente, eh bien, il perderait une avancée de... Il sème la terreur, tout simplement, à travers le pays. Et si elle est devenue aussi emblématique, c'est parce que, aussi, cette loi du blasphème qui a été instaurée, il faut le rappeler, dans les années 80 par un dictateur voulait imposer, justement, un islam on ne peut plus radical au Pakistan, n'a pas été réformée. Et du coup, parce que la montée du fondamentalisme est croissante au Pakistan, eh bien, à travers le cas d'Asia Bibi, quelques hommes politiques ont pris sa défense et ceux-là ont été assassinés justement
dont le ministre catholique des minorités chrétiennes.
Voilà, mais aussi le gouverneur musulman
du Pendjab,
une autre parlementaire musulmane, parce qu'elle a pris la défense d'Asia Bibi, a écopé d'une fatwa, donc elle ne peut plus vivre librement au Pakistan, plus y vivre du tout.
Alors il y a des cas comme ça dramatiques qui émergent, qui sortent du lot, mais évidemment des milliers de femmes sont assassinées en raison des crimes d'honneur dans ce pays, ou des femmes qui sont tout simplement assassinées dans des cas de violence domestique sans que ça fasse même une ligne dans un journal. Tout a commencé pour Asia Bibi, parce qu'au début l'affaire n'est pas médiatisée, tout a commencé par une dispute autour d'un puits par grande chaleur dans le Pendjab. Racontez-nous.
Oui, nous étions en juin 2009. Comme souvent, Asia Bibi, paysanne, participait à des cueillettes de fruits pour gagner quelques roupies afin de nourrir sa famille. Et ce jour-là, parce qu'elle s'est désaltérée dans le puits commun aux autres femmes musulmanes, l'une des femmes l'a pris à partie en lui disant que parce qu'elle était chrétienne, elle avait souillé l'eau du puits. Ce à quoi Asia Bibi a répondu qu'elle ne comprenait pas ces allégations et qu'elle ne pensait pas que le prophète Mahomet serait d'accord avec ce qu'elle dit. Et parce qu'elle était chrétienne, donc une minorité un peu discriminée hein, au Pakistan, cette femme-là a utilisé le fait qu'elle parle au nom du prophète pour l'accuser de blasphème. Et à partir de là, Asia Bibi est tombée dans un tourbillon cauchemardesque et n'a plus jamais pu en ressortir parce que dès l'instant où le mot blasphème a été prononcé, eh bien, sa vie s'est arrêtée.
Alors, ce mot, il est prononcé parce qu'en fait, le principe repose sur le principe de dénonciation. Hein, la loi repose sur le principe de dénonciation.
Absolument, parce qu'il est impossible de prouver.
Elle est dénoncée donc par deux femmes, c'est ça ?
Oui, une mère et sa fille.
Avec qui elle travaille au champ.
Oui.
Et puis le mollah aussi du village.
Oui, parce que l'autorité dans ces cas-là, on va voir l'autorité du village et là c'est le mollah. Et donc ces femmes ont répété, ont menti en fait. On dit au mollah qu'elle avait dit bien d'autres choses et le mollah a suivi ces femmes en porte-plainte lui aussi.
La loi normalement prévoit une condamnation prison à vie si c'est un blasphème contre le Coran, c'est ça ?
Oui.
Mais quand on blasphème à l'encontre du prophète, là c'est la condamnation à mort.
Absolument, et c'est sans appel.
Ouais, et c'est ce dont elle va écoper. Asia Bibi est donc très vite incarcérée.
Une semaine après, et c'est là qu'il y a un doute, enfin c'est ce que les avocats d'Asia Bibi essayent de mettre en avant, c'est-à-dire que il s'est passé une semaine après cette altercation dans le champ, avant que Asia Bibi soit accusée et jetée en prison. Donc ça montre bien ce que je révèle dans le livre « La mort n'est pas une solution », c'est que tout est parti d'une conspiration, d'une vengeance. Il y a une jalousie, une femme chrétienne en fait a conspiré avec ces femmes musulmanes pour faire accuser Asia Bibi de blasphème, pour s'en débarrasser tout simplement.
Parce que derrière en fait il y a quoi ? Des disputes de voisinage, des disputes liées à des petits intérêts économiques et à la survie au quotidien, c'est ça ?
Oh, c'est même pas ça. Figurez-vous qu'Asia Bibi vivait avec ces femmes-là, elles sont voisines. Hein. Moi j'y suis allée dans ce village à Itan Wali et j'ai rencontré la femme qui a accusé Asia Bibi. Elles habitent à 10 mètres. Hein. Elles sont super voisines et elles ont cohabité pendant 20 ans sans qu'il y ait le moindre
question
problème.
Qu'on se pose. C'est ça, tous les jours elles travaillaient ensemble au champ.
Exactement. Mais parce que le mari d'Asia Bibi, Achik, avait une première femme chrétienne avec qui il s'est marié et qu'elle n'a jamais voulu divorcer, il l'a toujours gardée comme femme. Et cette femme-là, qui s'appelle Yasmine, n'a jamais supporté d'être supplantée par Asia Bibi et cherchait depuis des années un moyen de se venger de cet affront, finalement. Une femme trompée, voilà, rejetée par son mari légitime. Et du coup, quelques jours avant cette fameuse altercation, mon enquête démontre que ces femmes-là chuchotaient, conspiraient, et comme par hasard, ce jour-là dans le champ, effectivement, Asia Bibi a été accusée de blasphème, parce que tout le monde sait, il faut savoir que dans ce village, on est plongé en plein Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire que personne n'est instruit, tout le monde est analphabète. Il y a beaucoup de rudesse, si vous voulez, entre les gens, l'empathie fait pas partie vraiment de ces voisins qui cohabitent les uns avec les autres, c'est chacun a peur finalement pour soi, et donc, en l'occurrence, pour cette femme-là musulmane, accuser quelqu'un de blasphème, c'est se bien faire voir par le mollah et par les autres, parce que dans le Pendjab musulman, tout le monde voudrait se faire valoir comme étant un bon musulman. Quand on est un bon musulman, on n'a aucun problème dans sa vie quotidienne.
Oui, c'est plus compliqué que cela. Un pays musulman à 97%, hein, on a 3 millions de chrétiens. Mais finalement, ce que vous décrivez, ce bas conflit de voisinage, est bien éloigné de ce que les médias en racontent, à savoir une chrétienne victime d'une discrimination dramatique.
Alors, non seulement ça n'a rien à voir, mais moi je mets tout en œuvre pour que ça ne soit pas la religion d'Asia Bibi qui soit mise en avant, parce que je sais ô combien c'est contre-productif. Et a fortiori, pas vrai, quoi.
Et il y a des musulmans qui sont condamnés pour blasphème.
La majorité des gens, la majorité des 300 personnes qui sont jetées en prison chaque année en attente de leur procès
pour blasphème,
sont musulmans. Et ensuite, c'est ce que j'explique aussi dans le livre. La deuxième minorité, ce sont les musulmans chiites qui sont accusés pour blasphème. Et ensuite, ce sont les Ahmadis qui sont apparentés comme une secte pour les musulmans. puis les hindous. Donc les chrétiens finalement sont très peu accusés de blasphème.
On y revient et bien sûr en toile de fond il y a la situation des femmes au Pakistan. Anne-Isabelle Tollé, on parle de votre livre Anne-Isabelle, Asia Bibi condamnée à la pendaison pour blasphème, la mort n'est pas une solution. Asia Bibi, c'est cette pakistanaise donc condamnée à mort, première femme condamnée à mort pour, oui, pour blasphème. Depuis, il y en a eu d'autres, puisque ça fait combien d'années qu'elle est incarcérée maintenant?
Ça va faire
depuis 2009.
Ans. 6 ans au mois de juin, en effet, et beaucoup d'autres sont condamnés à mort aussi. Ce sont des hommes, parce que ce n'est pas relayé à l'international, on n'a pas connaissance, et parce que je me suis pas intéressée à tous les cas de blasphème. À travers Asia Bibi, c'est justement toutes ces personnes-là qui sont condamnées injustement que je défends. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que, en effet, vous disiez que souvent, on mettait en avant sa religion de chrétienne. Donc, à la fois, c'est contre-productif parce que si on fait ça, je sais que le Pakistan ne fera aucun effort pour défendre Asia Bibi, puisque au lendemain des déclarations du pape Benoît XVI, moi, j'étais à Islamabad et à Lahore, et j'ai vu les manifestations monstrueuses de tout, justement, ces partis religieux très influents au Pakistan.
Le pape qui défendait Asia Bibi, bien sûr, et qui demandait...
Et qui criait à l'ingérence religieuse, pour ne pas dire à la guerre de civilisation. C'est pas comme ça qu'on va faire plier le Pakistan, parce qu'en plus ça ne reflète pas la réalité du terrain. Ce sont d'abord les musulmans qui sont condamnés pour blasphème. Et d'autre part, si les fondamentalistes religieux utilisent cette loi du blasphème pour imposer leur vision de l'islam, a contrario, en Occident, les chrétiens utilisent le cas d'Asia Bibi pour faire valoir leur religion chrétienne, ou pour rappeler que, ici ou là, les chrétiens sont persécutés en terre d'islam. Mais ce n'est pas le cas au Pakistan. C'est vrai en Irak, c'est vrai en Égypte, mais certainement pas au Pakistan. Mmh. Au Pakistan, moi je défends l'ensemble des citoyens pakistanais victimes d'une arme qui s'appelle la loi du blasphème. Mmh.
La loi du blasphème. Alors il y a aussi, si on veut élargir le drame dont sont victimes bon nombre de femmes de conditions très modestes au Pakistan, les crimes d'honneur, qui ont été d'ailleurs beaucoup plus médiatisés et qui ensanglantent une partie des familles, qui sont dramatiques.
Il est vrai qu'il y a 3000 crimes d'honneur commis chaque année au Pakistan, essentiellement dans les... zones les plus reculées, parce qu'on n'assiste pas à des crimes d'honneur en ville. Pourquoi ? Parce que c'est culturellement une tradition tribale auquel la justice pakistanaise, l'État pakistanais n'a pas prise. Et donc, tuer quelqu'un, une fille ou une mère, pour sauver l'honneur de la famille, c'est quelque chose de culturel. Ça n'a rien à voir avec l'islam, d'ailleurs. Et il y a de nombreuses femmes qui sont utilisées, soit pour régler justement des conflits également de voisinage.
Mmh. Ou financier, d'ailleurs.
Ou financier, hein, pour racheter des terres, etc. Et,
ils sont donc bien, bien éloignés de la culture et de la religion. Bien sûr.
Rien à voir. Mmh. Mais vraiment, les crimes d'honneur sont pas liés à la religion. Mmh. Ils ne sont pas justifiés au nom de l'islam. Mmh.
Mais alors, concernant les crimes d'honneur, l'élite politique a quand même largement pris ses distances avec, avec cette pratique. Et sur le blasphème, finalement, est-ce qu'il n'y a pas davantage de gêne?
Ah, il y a énormément de gêne, et puis plus on en parle et plus le gouvernement pakistanais est mal à l'aise avec cette histoire, parce que ils sont pris entre deux feux. Ils ont d'un côté l'ensemble de la communauté internationale et eux-mêmes qui sont des politiques libéraux, élus démocratiquement, des soufis pour la plupart, donc ils pratiquent un islam très ouvert, qui souhaiterait réformer cette loi du blasphème. Sauf que les deux personnes politiques auxquelles on faisait allusion, qui ont essayé de vouloir réformer cette loi du blasphème, ont été littéralement assassinées.
Le gouverneur du Punjab et le ministre des minorités
Shahbaz Bhatti. Et donc, ça a tout de suite verrouillé le sujet.
Et sur les crimes d'honneur, alors pourquoi la classe politique a plus courageusement pris position? Plus grand monde défend les crimes d'honneur au Pakistan, dans l'élite?
Non, parce que c'est un peu un non-sujet, un non-événement là-bas. Et comme au Pakistan, il y a à la fois il y a des tribunaux qui échappent. Vous savez, le Pakistan c'est un État fédéral, hein, donc ce sont les provinces, hein, qui sont régies par des gouverneurs. Et il y a des lois en fonction de chaque province.
Et donc et les crimes d'honneur qui sont légalement interdits dans tout le pays depuis.
Non, elles sont
dans certains États.
Il y a eu quelques lois, mais qui sont pas vraiment appliquées pour justement condamner des crimes d'honneur abusifs. Mais bon, sauf qu'ils sont tous abusifs, donc c'est un peu hypocrite. C'est comme les crimes à l'acide, désormais, depuis
les attaques à l'acide
années,
à l'égard de femmes. Hein.
Voilà, parfois, elles arrivent quand elles sont aidées par des associations courageuses à se porter devant la justice et à faire condamner leur mari ou leur oncle qui leur a balancé un jet d'acide dans la figure, et donc qui sont littéralement défigurés, et leur vie s'arrête aussi.
Vous avez vécu finalement pendant 4 ans, Isabelle Tollet, entre à la fois l'élite féministe d'Islamabad, et pas que d'Islamabad d'ailleurs, hein, aussi.
Non, de Karachi, de Lahore.
De Lahore, oui, Lahore qui est la capitale culturelle, oui, davantage. Et en même temps, dans ces milieux-là, de femmes ultra éduquées, avec des vies internationales, etc., et tout en allant faire des reportages dans des milieux éloignés de plusieurs siècles.
Oui, c'est le pays le plus contrasté que je connaisse au monde, le Pakistan. C'est ces femmes qui vivent en ville et qui sont bien nanties, et ces femmes qu'on peut trouver dans les villages reculés, vivent dans le même pays, mais pas dans le même monde. Elles n'ont absolument pas la même vie. C'est-à-dire que d'un côté, on est au Moyen-Âge, où ces femmes subissent et sont soumises. Et de l'autre côté, les femmes qui travaillent en ville et qui sont ouvertes sur le monde, très éduquées, et qui ont une niaque et une pêche qui ferait pâlir n'importe laquelle d'entre nous ici. Vraiment, elles sont brillantes et un courage extraordinaire, peut-être parce que plus que nous, elles savent à quel point elles ont une chance extraordinaire de pouvoir être libres en tant que femmes, et du coup elles n'hésitent pas à aller au-delà même de la liberté qu'on leur octroie. Elles sont vraiment d'un courage et d'une pertinence.
Pour celles qui prennent des positions, en tout cas. Oui. Anne-Isabelle Tollet, vous restez avec nous. L'histoire et le sort juridique d'Asia Bibi suscitent une mobilisation, mais aussi beaucoup d'interrogations, hein, à l'heure où nous parlons sur cette, sur son sort, sur ce qu'elle va vivre et si elle va être libérée ou si elle sera finalement condamnée à la pendaison. Et puis aussi, en toile de fond, sur cette société pakistanaise dont vous nous parlez, pour le moins contrastée. 7 milliards de voisins, retour dans 3 minutes, juste après le flash. Restez avec nous.
De voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins en compagnie d'Anne-Isabelle Tollé. Vous publiez « La mort n'est pas une solution ». C'est l'histoire d'Asia Bibi, condamnée à la pendaison pour blasphème. Souvenez-vous, si vous prenez l'émission en cours de route, de cette paysanne pakistanaise qui, à partir d'un banal conflit de voisinage, voire même conflit plus ou moins sentimental à l'origine des jalousies de femmes, hein, comme vous nous l'expliquiez en première partie, Anne-Isabelle Tollé, dans le Pendjab, un état particulièrement pauvre, peu éduqué, du Pakistan, et cette femme chrétienne s'est retrouvée donc condamnée à mort pour blasphème. C'est la première femme à être condamnée à mort pour blasphème. Le blasphème, cette loi contre le blasphème qui d'ailleurs touche en majorité des musulmans, hein, vous le disiez, on est à peu près à 300 personnes à l'heure actuelle au Pakistan qui attendent
chaque année. Oui.
Chaque année. Et ceci dit, depuis, il y a eu une autre femme qui a été jugée pour blasphème, l'ambassadrice pakistanaise aux États-Unis, une femme de l'élite.
Hein. Alors elle n'a pas été jugée, elle est attendue devant la justice pour être jugée pour délit de blasphème. Et le blasphème qu'on lui reproche, c'est d'avoir pris la défense d'Asia Bibi.
Ah oui, c'est ça.
Et elle est ambassadrice pakistanaise, musulmane, au Pakistan, à Washington. Elle est aussi menacée de mort par les fondamentalistes religieux. Donc je pense qu'on n'est pas prêt de la revoir au Pakistan. En tout cas, pas prêt de la revoir devant les tribunaux. Je sais qu'elle fait quelques allers-retours de temps en temps parce qu'elle est très attachée à son pays, évidemment. Mais c'est une femme courageuse qui s'appelle Sheri Rehman et qui, depuis 2010, prend ouvertement la défense d'Asia Bibi et qui se voit aujourd'hui accusée de blasphème parce que elle a pris la défense d'Asia Bibi parce que elle a remis en cause cette loi du blasphème.
Donc c'est vraiment un dossier, le dossier d'Asia Bibi, qui fait énormément de bruit, pas seulement au Pakistan, à l'international, mais qui traverse la société pakistanaise, qui divise. Asia Bibi est incarcérée depuis 2009. Dans quelles conditions aujourd'hui ?
Oh, ces conditions sont indignes dans la mesure où on pourrait pas laisser vivre ne serait-ce qu'un animal par chez nous dans les conditions dans lesquelles elle vit sans être poursuivie par la SPA. C'est-à-dire qu'elle vit dans une cellule microscopique, sans fenêtre, en dormant à même le sol. Elle n'a pas le droit de sortir de sa cellule, contrairement aux autres détenus. Donc elle ne peut pas faire la petite promenade, ne serait-ce que pour voir le ciel et s'aérer. Et quand il fait chaud, bah, c'est un four truffé de vermine. Et l'hiver, elle est dans un courant d'air abominable où là elle risque de tomber malade, c'est arrivé parfois et c'est extrêmement compliqué de lui faire voir par un médecin et je me souviens de beaucoup de courriers que j'ai pu envoyer pour que ne serait-ce qu'un médecin puisse aller la consulter parce que finalement, que ce soit les geôliers de la prison et même la classe politique pakistanaise, idéalement, histoire de ne pas avoir à trancher sur ce sujet aussi sensible, eh bien serait qu'elle meure naturellement en prison.
Asia Bibi est une mère de famille effectivement, depuis le début elle risque d'être assassinée en prison, même si le fait qu'elle soit placée à l'isolement, ça soit en réalité pour sa sécurité, c'est bien cela, pour éviter qu'elle ne soit assassinée en prison.
Oui, 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 mais en même temps, on n'est jamais à l'abri, et c'est pourquoi moi je tiens à ce que sa famille lui apporte sa nourriture crue tous les 15 jours, parce que souvent les gens sont assassinés par empoisonnement dans la prison, et ça implique des frais, c'est pénible, parce que tous les 15 jours, sa famille doit lui apporter sa nourriture. Mais je suis convaincue que si on n'avait pas fait ça depuis le début, elle aurait sans doute été assassinée. Parce que finalement, on se rend compte que là-bas, ça prend de telles proportions que la personne qui assassinerait Asia Bibi serait, comme l'assassin du gouverneur musulman, perçu comme un héros national par les fondamentalistes qui instaurent la terreur. Et donc ce sujet du blasphème, de la loi du blasphème, quand vous dites qu'elle divise au Pakistan, c'est pas complètement vrai dans la mesure où l'ensemble de la société civile voudrait que cette loi soit réformée. C'est une poignée d'extrémistes qui imposent cette loi.
Mais avec un poids politique non négligeable.
Absolument, parce qu'ils ont promis le chaos dans tout le pays si cette loi était réformée, si Asia Bibi était libérée, et ils ont des moyens simples, hein, des assassinats, ils commettent des attentats, et effectivement, le gouvernement pakistanais, qui est déjà fragilisé, n'a pas forcément envie d'être encore plus fragilisé pour sauver une femme que l'ensemble de la communauté internationale demande à ce qu'elle soit libérée. C'est dans la balance, voilà, c'est pas aussi simple que
Quelle mobilisation des ONG de la communauté internationale aujourd'hui? Elle a été faite citoyenne d'honneur par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bon, certes, c'est un geste symbolique, mais aujourd'hui, on en est où très concrètement?
Alors, c'est plus que symbolique, à mon sens. C'est aussi une protection, dans la mesure où c'est pas tous les matins que la mairie de Paris octroie la citoyenneté d'honneur. Quand on regarde les précédents, voilà, que ce soit Aung San Suu Kyi, Ingrid Betancourt, Nelson Mandela, Dalai Lama et plus récemment Charlie Hebdo. Donc, ça n'échappe pas au gouvernement pakistanais, qui n'a pas intérêt à s'enfermer complètement, puisque il faut rappeler quand même que l'Union européenne est le premier partenaire économique du Pakistan. Donc, ça impacte le Pakistan et ça a sans doute permis jusqu'à présent à ce que Asia Bibi soit encore en vie. Parce que justement, la classe politique, sachant que nous nous intéressons à son cas, ne font pas n'importe quoi avec Asia Bibi. Donc, si elle est encore en vie, c'est probablement grâce à cette mobilisation.
Mais qu'est-ce qu'on peut espérer très concrètement sur le plan juridique? La Cour suprême a accepté de rouvrir le dossier en novembre dernier. Donc, il y aura un nouveau procès.
Voilà, à partir de mai prochain.
Dans les semaines qui viennent, donc.
Voilà.
Il peut se passer quelque chose.
Il peut être surtout rejugé devant la Cour suprême, qui est l'ultime recours, l'équivalent de notre Cour de cassation.
Elle peut espérer également une grâce présidentielle ou pas?
Alors ça, à mon avis, faut pas rêver. D'autant que, au Pakistan, c'est pas le président qui décide, mais c'est le premier ministre. Mais bon, peu importe, parce que la symbolique est forte, et donc s'adresser au président du Pakistan, c'est très important.
Qu'est-ce qui peut se débloquer sur le plan juridique?
Eh bien, les juges de la Cour suprême vont reprendre le cas depuis le départ. Donc moi, je me suis efforcée d'aider l'avocat d'Asia Bibi, qui a bien accepté de la défendre parce qu'il prend des risques considérables pour sa vie, en essayant de lui donner le maximum d'arguments, en tout cas différents de ceux qui avaient été plaidés lors de la Cour de Lahore, puisqu'elle a été à nouveau condamnée à mort. Donc cela, on peut dire qu'ils servent à rien. Et donc j'essaye de lui donner d'autres éléments avec mon recul, ma distance, et puis je me suis un peu plongé aussi dans le droit pakistanais, qui est pas simple parce que c'est un mélange de charia et de droit britannique. Mais s'il mettait tout ça en avant, plus la pression internationale, je pense pas me tromper en disant que nous avons au minimum 50% de chances pour que les juges de la Cour suprême l'innocentent. Donc c'est pas du tout impossible, mais
à la condition qu'ils acceptent la démonstration qu'elle est victime d'une instrumentalisation.
Oui,
c'est
mais
ça
surtout
et
à la condition
qu'elle n'a pas proféré de propos blasphématoires à l'encontre du prophète.
Oui, alors jusqu'à présent, les juges ne l'ont pas innocentée parce qu'il y avait une cinquantaine de mollahs présents dans le tribunal qui mettaient une pression folle sur les juges et qui leur promettaient de les tuer si jamais ils innocentaient Asia Bibi.
Pour quelle cour de justice à l'époque?
La Haute Cour de Lahore, qui est quand même une justice indépendante. Là, on n'est pas dans le tribunal local d'un enquête. Un tout petit bled régi par les mollahs, justement. Même à Lahore, les mollahs étaient présents et les juges savaient qu'ils signaient leur arrêt de mort si jamais ils innocentaient Asia Bibi. Donc là, la Cour suprême a plus un pouvoir exécutif et plus proche du pouvoir, et en exerçant une pression sur le pouvoir pakistanais, on a de fortes chances pour que les juges fassent le job. Mais vous savez, il suffit de regarder juste la façon dont le dossier d'Asia Bibi a été tenu pour qu'elle soit innocentée, puisqu'il y a tant de vices de procédure que rien que pour ça, le dossier ne tient pas. Donc il n'y a même pas à savoir si elle est innocente ou pas, c'est une décision politique désormais. C'est pour ça qu'en s'attaquant aux politiques pakistanais, on peut faire plier la justice pakistanaise.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Isabelle Tollé, ça n'est pas perceptible dans votre récit, dans la façon dont vous racontez aussi les dessous politiques, juridiques du dossier d'Asia Bibi, cette paysanne pakistanaise condamnée à la pendaison pour blasphème, mais en réalité, vous n'avez jamais rencontré Asia Bibi, bien que vous ayez passé 4 ans comme correspondante pour France 24 à Islamabad. Pourquoi vous n'êtes jamais parvenu à rencontrer Asia Bibi alors que vous êtes tellement investi sur le dossier?
Alors, je m'en suis jamais cachée, je l'ai toujours crié haut et fort que je n'avais jamais rencontrer Asia Bibi, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai essayé par tous les biais, par tous les moyens, mais parce que le gouvernement pakistanais ne voulait pas que cette histoire soit connue à l'extérieur du Pakistan. Il ne voulait évidemment pas que je la rencontre pour éventuellement écrire un livre ou témoigner aujourd'hui devant votre micro. Mais pour autant, en me rapprochant de la famille et en communiquant avec elle à travers sa famille qui faisait passer mes messages et elle ses messages.
C'est ça, donc interview avons... interposée, vous accompagnez le mari devant la prison, vous l'attendez, c'est ça?
Voilà, on a pu nouer un lien. Mais le fait que je n'ai pas rencontré Asia Bibi, finalement, ça montre bien que ce que je défends, ce n'est pas une personne que je connais ou qui m'a touchée particulièrement, c'est bien un combat pour la justice, pour la liberté, la liberté de conscience. Tout simplement, personne ne doit mourir pour un verre d'eau, comme personne ne doit mourir pour ses idées ou pour un dessin.
Est-ce qu'il y a d'autres journalistes ou occidentaux qui l'ont rencontré dans sa cellule aujourd'hui?
Non, c'est impossible. Parce que justement, Asia Bibi est devenue une affaire d'État au Pakistan.
Quel âge a-t-elle aujourd'hui, Asia Bibi, depuis 6 ans
qu'elle est incarcérée? Elle doit avoir environ 44-45 ans. Là-bas, les gens ne connaissent pas leur âge.
Vous communiquez par lettre également?
Par lettre
interposée. Elle n'a pas appris à lire et à écrire, hein, il faut le
préciser.
Non.
Donc elle est complètement analphabète et ne comprend pas l'anglais non plus. Donc elle a un oncle avec qui je communique quotidiennement, qui peut lui rendre visite à Asia Bibi et donc et qui parle anglais. Et c'est avec lui aussi que je peux faire passer tous mes messages ou entendre tous ces messages, relayer les messages qu'il voudrait nous faire passer.
Vous-même, vous ne pouvez plus retourner raisonnablement au Pakistan
en
tant que journaliste?
Non, d'abord parce que l'ambassade du Pakistan ne veut pas me donner de visa et aussi pour des raisons de sécurité, parce que on voit bien qu'à travers le cas d'Asia Bibi, toutes les personnes qui l'ont défendue sont menacées de mort par les fondamentalistes religieux. Et pas seulement au Pakistan, puisque Asia Bibi est aussi dans la ligne de mire de l'État islamique, de Daesh, puisqu'un documentaire auquel j'ai participé, polonais, a été diffusé il y a 3 semaines en Pologne. Le site internet a été hacké par Daesh. Et donc, ça y est, ça montre bien que en défendant Asia Bibi, on lutte, on combat l'obscurantisme religieux. Et c'est pas endémique au Pakistan. J'imagine que beaucoup de gens se disent « Oh non, le Pakistan, bon, c'est tellement pas concernant et tout. » Mais bon, faut rappeler que là-bas, il y a la bombe nucléaire, que le pays est gangréné par l'extrémisme religieux.
Le sujet est quand même largement couvert par la presse internationale.
Et que le terrorisme n'a pas de frontières. Donc, en sauvant Asia Bibi, on sauve aussi notre liberté.
Ouais. Non, mais il y a d'autres journalistes occidentaux qui dénoncent tous les dysfonctionnements de la société pakistanaise et les dérives.
Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément le meilleur moyen pour sauver Asia Bibi, parce que vous disiez, il y a la justice certes, mais le moyen de pression qu'on peut exercer sur le Pakistan, il peut être efficace à condition de crier habilement. C'est-à-dire que si on se positionne pour défendre une chrétienne, on n'a aucune chance. Comment le Pakistan, République islamique, pourrait se plier au dictat des chrétiens? C'est pas possible.
Qui représente à peine 3% de la population. Elle est défendue par un avocat chrétien ou musulman?
Non,
que pendant longtemps, elle était défendue par un chrétien.
Et oui, parce qu'aucun musulman ne voulait la défendre au risque d'être condamné lui-même. Et là, nous avons trouvé un avocat musulman courageux et j'en suis très heureuse.
Les droits d'auteur de ce livre, La mort n'est pas une solution, vont être reversés à la famille?
Oui, parce que la famille vit sans ressources depuis 6 ans, parce que la famille est elle-même condamnée à mort parce que appartenant à la famille d'Asia Bibi.
Et chassée du village où elle travaillait. Hein.
Oui, donc ils changent régulièrement de logement.
Elle a plusieurs enfants, Asia Bibi, on n'a pas parlé de ses enfants d'ailleurs.
Alors oui, des enfants en bas âge, donc c'est pareil, il faut payer l'école, les visites en prison parce que elle a été déménagée dans une prison à plus de 15 heures de route, eh bien voilà, il faut louer un véhicule, la nourriture, il faut la payer, et je vous parle pas de l'avocat qui demande ses honoraires à juste titre, mais donc sans ressources, sans notre aide, ils ne peuvent pas survivre tout simplement. Et si on voudrait qu'Asia Bibi soit libérée, il faudrait déjà qu'elle puisse être représentée devant la justice, et pour ça payer les frais d'avocat. Et c'était pour ça aussi que non seulement je reverse les droits d'auteur à Asia Bibi, mais j'ai monté aussi une association, le Comité International Asia Bibi, et un site internet www.asiabibi.com où les gens peuvent aider un petit peu, s'ils le souhaitent, à participer à la défense d'Asia Bibi.
À quel moment vous êtes finalement passée de journaliste à femme engagée pour la cause d'une autre femme?
Je me considère pas comme étant une militante, mais plutôt comme une combattante, dans la mesure où j'ai l'impression de continuer à exercer mon métier de journaliste, même s'il est poussé jusqu'à son paroxysme, parce que c'est un sujet complexe, Asia Bibi, et si d'abord j'avais voulu me trouver une cause, j'en aurais trouvé d'autres depuis longtemps, mais j'ai été happée par Asia Bibi parce que j'étais proche du ministre pakistanais qui a été assassiné par les talibans et qui m'a demandé de faire un petit peu de bruit à l'international pour parler de son histoire. Donc j'ai commencé à rencontrer sa famille et à pouvoir faire des reportages sur la famille d'Asia Bibi. Et dès lors que tous les supporters au Pakistan d'Asia Bibi ont été assassinés, ils n'avaient plus que moi. Et donc ils m'ont demandé, ils m'ont dit mais on n'a plus que toi, tu nous abandonnes pas, etc. Et je me suis engagée à ne jamais les abandonner. Mais à travers le livre La mort n'est pas une solution, ou à travers ce que la complexité de ce dossier que j'essaye de mettre en avant, j'ai pas l'impression de me perdre. C'est-à-dire que un journaliste, ça se doit d'être neutre et de faire état de la réalité du terrain. C'est ce que j'essaye de faire. Je tombe pas du tout dans le sentimentalisme. Et souvent, je vois bien que certaines gens souhaiteraient que je sois plus empathique, plus dans le larmoyant.
Est-ce que parfois vous n'avez pas le sentiment que cette affaire vous dépasse très largement ?
Ah si, complètement, parce qu'il y a des récupérations aussi de toutes sortes.
Et puis des enjeux hautement diplomatiques aussi.
Et c'est à moi d'interpeller les politiques français notamment, ils ont un petit peu réagi, mais je me rends compte que finalement, si je ne suis pas là pour me faire le porte-voix de cette société pakistanaise, finalement, personne n'en parle, parce que les gens pensent qu'ils ne sont pas concernés. Et donc, il faut quand même pousser, hein. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de temps consacré pour mobiliser les autres, pour qui prennent le relais, parce que moi je suis pas Miss Monde, hein, je peux pas tout faire, et j'aimerais bien que d'autres s'emparent d'Asia Bibi. Alors là je suis contente parce que Rachida Dati vient d'envoyer une lettre signée par plus de 65 députés européens au président du Pakistan pour demander la grâce présidentielle à Asia Bibi.
Les organisations internationales bien connues de type Amnesty International, de type Human Rights Watch, est-ce qu'il y a cette mobilisation là aussi ?
Oui, mais ce n'est pas suffisant, la preuve, puisque que ça n'a pas marché. Souvent, ces associations, elles attaquent sur plusieurs fronts, c'est-à-dire la peine de mort. On peut pas demander tout au Pakistan, de réformer une loi ou d'abolir une loi, d'arrêter la peine de mort. C'est trop. Il faut, à mon avis, cibler, y aller par petits bouts, étape par étape. Et on peut pas non plus condamner un pays qui a une loi sur le délit de blasphème, alors que nous-mêmes, en Europe, on n'est pas complètement libérés de cette loi du blasphème. Et qu'en Irlande, par exemple, ils ont renforcé la répression autour des blasphèmes qui seraient commis à l'égard de la religion chrétienne. Donc c'est un sujet beaucoup plus complexe et subtil, et je pense que si on veut y arriver, c'est pas en condamnant le Pakistan, mais en lui tendant la main et en l'aidant, en le soutenant dans sa lutte contre le fondamentalisme religieux.
Anne-Isabelle Tolle, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vais donner le titre de votre livre si on veut vraiment entrer dans l'histoire. Alors c'est pas seulement Asia Bibi, c'est aussi, vous avez effectué de nombreux reportages sur la condition des femmes au Pakistan. La mort n'est pas une solution, Asia Bibi condamnée à la pendaison pour blasphème. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission ?
Oui.
Dans quelques instants, je vous propose une rencontre, une styliste venue d'Azerbaïdjan. Ça sera juste après Merayar. On entend relativement peu parler de ce pays, si ce n'est pour son pétrole. L'Azerbaïdjan, situé dans le Caucase, entre l'Europe et l'Asie, possède un littoral sur la mer Caspienne, et puis son fameux pétrole. Ancienne république soviétique, régime autoritaire aujourd'hui, l'Azerbaïdjan n'est pas allé au bout de sa transition démocratique après 70 ans de communisme. De leur côté, les femmes commencent à sortir d'un modèle très patriarcal et très loin de ses préoccupations politiques. Charlie Dupuis a rencontré une créatrice de mode venue d'Azerbaïdjan. Elle était de passage à Paris à l'occasion d'un festival de mode orientale où elle présentait ses caftans revisités. Elle s'appelle Karia Khalafova.
Меня зовут Фахрия Халафова. Я представляю Азербайджан.
Je m'appelle Fahria Khalafova, je viens d'Azerbaïdjan. Je suis la première de mon pays à m'être lancée comme créatrice de mode après l'indépendance en 1991. Bien sûr, la mode européenne est très présente en Azerbaïdjan. D'ailleurs, cela fait déjà plus d'un siècle que les femmes azéries s'intéressent à cette mode. Dès la fin du 19e siècle, les femmes, notamment celles de l'élite, ont abandonné les tenues traditionnelles pour s'habiller comme les européennes. Ce changement est lié au pétrole. En fait, un grand nombre d'Européennes sont venues en Azerbaïdjan après qu'on y ait découvert des gisements de pétrole. Par exemple, deux des frères Nobel, qui étaient suédois, sont venus ici en Azerbaïdjan afin d'extraire et de produire du pétrole. Pour cette industrie, il fallait aussi l'expertise de scientifiques, spécialisés dans différents domaines, tels que des chimistes et des gens qui avaient déjà travaillé dans le pétrole. Ces scientifiques amenaient leur famille avec eux. C'est pour ça qu'un nombre significatif d'Européens ont migré en Azerbaïdjan dès la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs compagnies pétrolières françaises implantées en Azerbaïdjan. 7, il me semble.
D'ailleurs, avec le pétrole, ensuite, l'Azerbaïdjan a eu une croissance extraordinaire de 25% entre 2005 et 2007. Donc c'est un pays qui s'est beaucoup développé grâce à ça.
Oui, c'est vrai. Et les femmes des magnats pétroliers ont toujours commandé leurs robes à Paris. D'ailleurs, aujourd'hui encore, sur les rues centrales de Bakou, la capitale, on peut voir toutes les marques françaises ou italiennes. On se sent presque comme à Paris.
Qu'est-ce que c'est d'être une femme dans ce pays-là, en Azerbaïdjan ?
Il faut savoir que les femmes en Azerbaïdjan ont obtenu le droit de vote en 1918, bien avant les Européennes. C'est un fait historique. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent en Azerbaïdjan. Notamment, et on le remarque, ces 5 dernières années dans le business, dans la banque ou les assurances. Certaines sont médecins aussi, ou professeurs. Ces femmes-là, plus nombreuses qu'avant, veulent être belles dans leur vie quotidienne, au travail. Donc elles font attention à ce qu'elles portent, car elles sont constamment en contact des autres.
Par exemple, vos clientes, comment elles s'habillent ?
Beaucoup portent des jeans. En fait, elles s'habillent à l'européenne. Et un grand nombre de femmes d'affaires portent des tailleurs pour aller au travail. Mais comme il fait chaud l'été en Azerbaïdjan, il faut adapter ses vêtements. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la mode française a au moins 200 ans. Et l'Azerbaïdjan, en tant que pays indépendant, n'a que 23 ans. Donc bien sûr que la mode azerbaïdjanaise n'en est encore qu'à ses débuts. Mais elle va se développer. Elle est encore jeune par rapport à la mode française.
Anne-Isabelle Tollet, qu'est-ce que ça vous inspire, cette créatrice de mode en Azerbaïdjan, un pays en tout cas dont on n'entend pas parler pour sa création vestimentaire?
Non, c'est vrai, mais je confirme, moi j'y suis allée l'année dernière, quelques jours à Bakou, dans la capitale, et effectivement les femmes sont habillées à l'européenne en Azerbaïdjan, et ce pays me donnait l'impression d'être dans un mini Dubaï. Donc effectivement la croissance, la richesse soudaine, leur affranchissement au communisme est très stupéfiant et ça n'a rien à voir avec le Pakistan, où même si dans les grandes villes pakistanaises certaines femmes osent les tenues occidentales, ça reste assez rare. Elles mettent plutôt ce qu'on appelle les tuniques, qui s'appellent des chaloirs kamis, qui ressemblent à des saris comme en Inde, mieux coupées et un peu plus cintrées. Voilà, c'est le mieux qu'elles puissent faire, parce que finalement elles portent assez peu de jeans ou même des Converse, des choses comme ça. Et de toute façon, même si elles sont habillées de manière très libérale, elles portent toujours un foulard, ce qu'on appelle une dupatta autour du cou, parce que il faut cacher ses épaules et son cou. Ça, c'est vraiment fondamental, presque plus que la tête, en ville, j'entends. Et dans les campagnes, alors là, évidemment, si on est dans l'ouest, du côté de Peshawar, bon, bah là, c'est carrément la burqa. Et sinon, les femmes sont voilées dans des chaloirs kamis très amples, où il ne faut surtout pas distinguer les formes, les fesses, les cuisses, la poitrine. Et
alors, la mode qui fait rêver les étudiantes sur les campus universitaires, quelle est cette mode qui peut faire rêver les jeunes filles?
Ah oui, elles sont fascinées. Ah, mais elles sont fascinées. Il y a depuis quelques années une Fashion Week au Pakistan, comme on peut
à
les voir.
À Islamabad, à Lahore, hein.
À Islamabad ou à Karachi. Alors, plutôt à Karachi, parce que, effectivement, les jeunes sont très tournés vers le monde occidental. Et donc, ça commence à se développer et à s'ouvrir justement sur la mode, occidentale.
Ce qui ne doit pas manquer de faire débat, j'imagine, entre les conservateurs et les modernistes, si on peut les appeler comme ça. Hein.
Oui, bien sûr, oui. Mais tant qu'on est en ville, on n'est pas embêté en fait par les conservateurs.
Merci en tout cas Anne-Isabelle Tollet d'être passée par le studio de 7 milliards de voisins. La mort n'est pas une solution, c'est le titre de votre ouvrage consacré en grande partie au sort d'Asia Bibi condamnée à la pendaison pour blasphème, et c'est publié aux éditions du Rocher. On va redonner le site internet de soutien à Asia Bibi.
www.asiabibi.com.
Voilà, Asia Bibi, comme ça se prononce, Asia, d'ailleurs Bibi ça veut dire...
Ça veut dire une femme vertueuse.
C'est ça, oui. Quelle ironie du sort qu'elle soit ainsi traitée, Asia Bibi. Donc, merci d'être passé par le studio. Vous pouvez également, vous qui nous écoutez, réécouter toutes nos émissions en podcast sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac à la réalisation. Demain, 7 milliards de voisins, que veulent les jeunes en Afrique? Emploi, liberté, réseaux sociaux, mobilisation. Sénégal, Burkina, RDC, peut-on parler de l'émergence d'une jeunesse africaine? On tentera de répondre à cette question avec nos invités, les voisins et les voisines. Si vous avez moins de 30 ans, évidemment, on compte tout spécialement sur vos interventions. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. À demain sur RFI, 10h10, temps universel.